Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de Lauren Hurst, cette adolescente australienne de 13 ans qui a conquis LinkedIn avant de disparaître mystérieusement du web. Une ascension fulgurante, une disparition totale, et entre les deux, une énigme encore tenace aujourd'hui. Comment une simple adolescente a-t-elle pu générer plus d'un million de dollars, fonder une agence d'influence et convaincre des dirigeants d'entreprise de la suivre, tout ça en moins d'un an? Pour répondre à ces questions, j'ai dû m'immerger dans son parcours. J'ai passé des heures à fouiller des archives sur le net et à rechercher des lost médias pour retracer ses débuts. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment Lauren a commencé sur LinkedIn et comment elle a attiré l'attention avec des posts impertinents avant d'exploser son nombre d'abonnés. On va essayer de remonter comme ça jusqu'à la création de son agence, NextGen, cette entreprise qui a propulsé sa carrière et peut-être signé le début de sa chute. Pour m'aider à détricoter cette enquête, j'ai rencontré une journaliste qui travaille aux Échos et qui a suivi à l'époque la montée en puissance de Lauren, Charlotte Dumont. En 2022, elle a écrit un article à son sujet qui offrait un aperçu unique sur la manière dont cette jeune fille a su exploiter les codes du personal branding pour s'imposer sur LinkedIn. Ensemble, on a reconstitué les étapes de son ascension et exploré aussi les zones d'ombre qui entourent sa vie. Je m'appelle Alexandre et vous écoutez le Mystère Lauren Hurst, le podcast qui explore l'ascension fulgurante et la chute brutale d'une adolescente qui a marqué le LinkedIn australien de son empreinte avant d'être effacée de l'histoire du jour au lendemain. À la fin de l'épisode précédent, je vous parlais d'un article que j'avais retrouvé sur Wayback Machine. C'était mon premier vrai indice tangible sur Lauren Hurst. Jusqu'ici, pour rappel, tout ce que j'avais, c'était des discussions sur Reddit qui avaient disparu, un post LinkedIn effacé et quelques bribes d'infos lancées par Rémi. Mais là, j'avais quelque chose de concret. Un article publié le 28 avril 2022 sur un site australien. L'article en question, il provient du site Smart Company. C'est une sorte de média australien qui couvre l'actualité de tout ce qui est start-up, entrepreneuriat et business digital. À l'époque, ils avaient consacré une série de portraits à plusieurs jeunes prodiges du digital qui, grâce aux réseaux sociaux, avaient créé des business florissants. Et au milieu de cette série, il y avait un papier sur Lauren Hurst et son agence NextGen. Lauren, qui, de ce que j'en ai vu, était clairement la plus jeune du groupe, hein, puisque les autres avaient au moins la vingtaine. L'article en lui-même, il ne faisait que quelques paragraphes. Rien de révolutionnaire, mais il pose des bases intéressantes pour la suite de notre enquête, et je vais vous en lire un passage, puisque cette fois j'ai eu la présence d'esprit de faire une capture d'écran. À seulement 13 ans, Lauren Hurst s'est imposée sur LinkedIn avec une approche rafraîchissante du personal branding. En quelques mois, elle a su attirer une audience massive et s'est même positionnée comme conseillère en influence digitale pour entrepreneurs. À travers son agence, NextGen, qu'elle vient tout juste de fonder avec l'aide de ses parents, elle propose des stratégies de communication destinées aux CEO et aux startups souhaitant améliorer leur présence sur LinkedIn. Un succès fulgurant qui, pour certains, illustre l'évolution des nouvelles générations dans le monde du travail. Ok, alors on apprend plusieurs choses ici. 1. Lauren Hurst n'était clairement pas une ado qui postait juste des citations motivantes sur LinkedIn, hein, puisqu'elle semble avoir monté un vrai business. 2. La mention de son agence qu'elle vient tout juste de fonder avec l'aide de ses parents. À ce stade, c'est la première fois que l'on voit une référence explicite à ses parents. Jusqu'ici, tout ce qu'on avait mettait Lauren seule au centre de l'histoire. Mais si ses parents étaient impliqués dans la fondation de NextGen, ça soulève plusieurs questions à mon sens. Par exemple, quelle était leur véritable implication? Est-ce qu'ils se sont servis de l'image de Lauren pour vendre quelque chose à sa place? Et est-ce que cette agence était vraiment la sienne ou un projet façonné et dirigé en arrière-plan par des adultes? Je laisse ces questions ouvertes pour l'instant. Enfin, on va parler de ce passage. Elle s'est même positionnée comme conseillère en influence digitale pour entrepreneurs. Ça pourrait sembler anodin pour celles et ceux qui fréquentent LinkedIn, parce qu'en France, on a certains spécimens, on va dire, connus, qui revendiquent faire des milliers d'euros à 15 ans et quelques. Mais quand on y réfléchit, conseillère en influence digitale à 13 ans, vraiment, je veux dire, qu'est-ce qu'une enfant de 13 ans, hein, parce que oui, il s'agit bien d'une gamine, qu'est-ce qu'une enfant peut réellement apporter comme valeur ajoutée à des dirigeants qui évoluent dans le marketing et la communication depuis des années. Idem, je laisse la question ouverte, on pourra éventuellement y répondre plus tard. En tout cas, grâce au nom de son agence, j'ai pu collecter plusieurs autres informations en recoupant d'autres articles, des forums ou des posts archivés. J'ai d'abord trouvé une brève mention de NextGen dans un article du Sydney Morning Herald, j'espère que je le prononce bien, qui évoquait l'essor des micro-influenceurs sur LinkedIn. Lorraine y était citée comme un, je cite entre guillemets, « cas unique », une ado ayant percé dans un écosystème dominé par des professionnels masculins bien plus âgés. J'ai également retrouvé un échange particulièrement intéressant sur Flying Solo. C'est une communauté où des freelances et des indépendants peuvent discuter business et marketing. Il y a un utilisateur qui avait lancé un sujet qui s'intitulait « Next Gen, agence sérieuse ?». Je lis le premier message. Quelqu'un a déjà bossé avec Lauren Hurst ou son agence, je suis tombé sur ses posts LinkedIn, c'est vrai qu'elle écrit bien, mais ça sonne un peu trop beau pour être vrai. J'aimerais savoir si elle a vraiment des clients ou si c'est juste un gros coup de com'. Et en dessous, il y avait une vingtaine de réponses et elles étaient divisées en deux camps bien distincts grosso modo. D'abord, certains qui la défendaient en expliquant qu'elle avait un sens inné du branding et que son approche « disruptive » entre guillemets attirait l'attention des CEO en cas d'authenticité. Et d'autres qui étaient plus sceptiques et qui avançaient l'idée que ses clients étaient en réalité inexistants ou purement symboliques. Ce que je viens de vous décrire là, c'est en réalité un questionnement que j'ai très rapidement eu moi aussi, puisque les articles sur Lorraine étaient souvent vagues et ressassaient le même genre de storytelling, Lorraine, la prodige du branding qui bouscule les codes, etc. Mais à aucun moment, il y avait d'informations détaillées sur ce qu'elle faisait réellement. Ses clients, ils n'étaient presque jamais mentionnés. Ses méthodes ou ses services étaient passés sous silence. C'était comme si, en fait, tout le récit qui s'était tissé autour d'elle était une sorte d'image calibrée, une success story construite sur du flou artistique total. Donc à ce stade, je manquais de détails. J'avais des morceaux d'histoire, des traces fragmentées de son ascension, mais rien de vraiment solide pour comprendre comment elle était passée de simple ado sur LinkedIn à fondatrice d'une agence qui brassait soi-disant des dizaines de milliers de dollars chaque mois. C'est là que j'ai pris contact avec Charlotte Dumeau, une journaliste aux Échos. Début juin 2022, elle avait écrit un article sur Lauren Hurst que j'ai pu retrouver également sur Wayback Machine. Mais ce qui rendait Charlotte particulièrement intéressante, c'est qu'elle avait pu échanger directement avec Lauren, une des rares journalistes en fait à l'avoir fait avant sa disparition numérique. Je l'ai tout simplement contacté par mail, je me suis dit qu'il fallait tenter le coup. J'ai attendu un jour, deux jours, j'ai fait une petite relance, j'étais un peu pressé. J'ai encore attendu un jour, deux jours, trois jours, je me suis dit que ça allait être mort. Et puis finalement, j'ai eu un premier retour, laconique, mais intriguant. Oui, je me souviens très bien de cette affaire, ça m'avait frappé à l'époque, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui s'est passé pendant notre conversation. Je serais ravi d'en discuter avec vous. 5 minutes après, j'avais un billet de train pour Paris et j'ai rarement été aussi impatient de discuter avec quelqu'un. J'ai rendez-vous avec Charlotte dans un café entre midi et 2, dans un coin de salle un peu à l'écart. L'ambiance parfaite pour une discussion sérieuse. Elle a la quarantaine, les traits un peu tirés. On sent que le journalisme, c'est pas de tout repos. On échange quelques banalités, puis j'attaque directement parce que je sais qu'elle n'a pas beaucoup de temps à me consacrer. Eh bah, bonjour Charlotte.
Bonjour.
Enfin, bonjour. Et merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'imagine que vous vous attendiez pas du tout à ce qu'on vous reparle de Lauren Hurst aujourd'hui.
Non, c'est vrai. C'est vrai, mais alors, je vous avoue que ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que cette histoire était assez unique quand même.
Alors, justement, on va essayer de rassembler les morceaux du puzzle, comme on dit. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est de repartir à la base. Comment est-ce que vous avez entendu parler de Lauren ?
Alors, à l'époque, on était mai 2022, je crois. Je travaillais sur un dossier sur les nouvelles tendances de l'influence en B2B. On parlait toujours des influenceurs sur Instagram, sur TikTok. Mais LinkedIn commençait à émerger comme un espace où certains arrivaient à se démarquer, en tranchant avec les codes habituels de la communication corporelle notamment, et ensuite mobiliser ces forces-là pour construire des audiences massives. Je cherchais en fait des cas typiques et c'est mon conjoint qui m'a parlé de Lauren.
Votre conjoint ? Il travaillait dans le marketing digital ?
Non, pas du tout. Il travaille dans l'import-export. Il est spécialisé dans les échanges entre l'Australie et l'Europe, hein, principalement dans les produits agroalimentaires et le textile. Donc, rien à voir avec l'influence. Hein. Sauf que par son métier, il passe énormément de temps sur LinkedIn.
Ok, donc il utilise LinkedIn pour réseauter, j'imagine, trouver des fournisseurs, ce genre de trucs. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur Lorraine.
Oui, voilà, exactement. Il suit pas mal de CEO et de cadres dans l'industrie. Et un jour, il est tombé sur plusieurs postes d'entrepreneurs australiens qui partageaient les publications de Lorraine. Et à ce moment-là, elle était en pleine ascension. Lorraine, et il a vu passer son nom plusieurs fois dans son fil d'actualité. Et il m'a dit en rigolant « Ah tiens, t'as vu cette gamine qui vend du personal branding à des dirigeants? C'est incroyable, elle a 13 ans, elle leur explique comment se vendre en ligne, c'est fou !»
Ah, il trouvait ça absurde?
Ah oui. Mais alors, en même temps, il était impressionné. Il m'a montré un de ses posts qui avait fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et surtout, quand on regardait les commentaires en dessous, hein, on s'apercevait que c'était des vrais professionnels, hein, qui la prenaient très au sérieux, quoi. C'était réel.
Donc, on peut affirmer quelque part qu'elle n'était pas juste un phénomène de niche suivi par des indépendants ou des coachs en développement personnel, mais qu'elle était vraiment entrée en vue, si je peux dire, de gens qui faisaient du business à haut niveau.
Oui, c'est ce qui m'a intriguée. J'ai voulu savoir qui elle était, ce qu'elle vendait exactement, et surtout, hein, qui étaient ces entrepreneurs qui la soutenaient, qui partageaient ses posts. Je savais, l'instinct peut-être, hein, l'instinct va dire ça, que je tenais potentiellement un bon papier.
Alors à partir de là, comment vous avez creusé l'affaire ?
Alors, j'ai commencé par le plus simple. Hein. J'ai épluché son profil LinkedIn. À l'époque, il était encore accessible. Et sincèrement, de vous à moi, j'avoue que c'était une belle masterclass, comme on dit, en personal branding.
Et qu'est-ce qui vous a frappé en premier ?
Alors, je ne sais plus trop. L'ensemble, je dirais, hein, de souvenirs, c'était accaparé la couleur violette, déjà, pour sa direction artistique. Ça, c'était très percutant. Sa bannière, elle faisait très pro également, hein, comme si elle avait été réalisée par un graphiste. Et puis sa biographie, elle avait une approche, une accroche très percutante du style « Je suis né avec un smartphone en main, j'aide les entrepreneurs dépassés à comprendre les nouvelles règles du jeu sur LinkedIn », enfin quelque chose comme ça. Et c'était clairement fait et calibré pour faire réagir. Mais peut-être, je crois là maintenant, que ce qui était peut-être plus étonnant encore, c'était le nombre de connexions et d'abonnés qu'elle avait accumulés en quelques mois. De souvenirs, à 13 ans, puisqu'elle avait 13 ans, elle était suivie par des milliers de personnes, dont des CEO et des directeurs marketing, je me rappelle de ça.
Alors après ça, c'est des choses qu'on peut truquer. Enfin, est-ce qu'on sait si la plupart de ces abonnés étaient réels ou vraiment actifs ?
Oui, c'est la première chose que j'ai vérifiée. C'est vrai que sur LinkedIn, certains utilisent des pods ou des outils pour ajouter des personnes en masse, mais on s'apercevait vite que ce n'était pas son cas. Les commentaires sous ses posts étaient nombreux, hein, et provenaient de vraies personnes, du moins ce que j'ai pu en vérifier, avec des vrais profils et des vraies entreprises derrière. Si c'était du pod, par exemple, on l'aurait rapidement compris, avec le peu de variété des messages vu que c'est automatisé derrière.
Donc, du coup, on est d'accord. Elle avait une audience réelle, avec des interactions a priori authentiques. Je mets ça entre trois guillemets, hein, pour ce que ce mot veut dire. Mais comment est-ce qu'elle a percé aussi vite ?
Eh bien, c'est là, à mon sens, où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que Lorraine, de ce que j'ai pu voir, a su parfaitement exploiter les failles de LinkedIn pour créer des effets boule de neige.
Les failles de LinkedIn, c'est-à-dire ?
Alors, LinkedIn fonctionne avec un algorithme basé sur la rapidité de l'engagement. Plus un post génère de réactions dans les premières heures, voire hein, les premières minutes, hein, plus il est mis en avant. De ce que j'ai pu voir de ses premiers posts, Lorraine a rapidement développé une mécanique qui forçait, on va dire ça comme ça, cet algorithme à travailler en sa faveur. Elle postait très tôt le matin en Australie, ce qui correspondait plus ou moins à la fin de journée aux États-Unis et au réveil en Europe. Et si on y réfléchit quelques instants, je pense que sa première idée, c'était donc de maximiser les fuseaux horaires pour capter une audience plus large.
Ok, bon, c'est plutôt malin. Et ensuite ?
Alors ensuite, je mets à part ses premiers posts, hein, car de souvenir, il ne ressemblait effectivement pas à grand-chose. Hein, on sentait que c'était étonnant. Mais en tout cas, elle a vite compris comment attirer l'attention. Elle faisait des posts assez courts, très percutants, avec des phrases d'accroche qu'on pourrait qualifier de, alors on va dire, oui, de clickbait, hein, faut rester poli, mais très clickbait, plus, pour pousser les gens, je pense, à réagir émotionnellement. C'est comme ça que c'est conçu. Typiquement, je me souviens d'un post qui commençait par, je n'ai que 13 ans et déjà j'aide les CEO dépassés à mieux communiquer. Le tout avec un selfie où elle apparaissait évidemment à son avantage. D'ailleurs, c'était assez troublant parce que là, on en est vraiment sur le mythe de la Lolita. Sur le mythe de la Lolita, on était en plein dedans et donc forcément, tout ça mis ensemble, ça faisait polémique, forcément.
Ok, donc, si on récapitule, après des débuts un peu calamiteux, elle a rapidement percé en déclenchant du débat à tour de bras.
Oui, exactement. Cette polarisation du débat, c'est vite devenu sa marque de fabrique, hein, on va pas se mentir. Tous ses autres posts étaient dans la même veine. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça fait exploser les interactions. Et plus il y a d'interactions, plus LinkedIn mettait ses posts en avant, sans compter qu'elle avait l'air de beaucoup commenter chez les autres, hein, sans cesse, sans arrêt, à tel point que je me suis demandé si elle avait le temps d'aller à l'école. Quelque part, c'était, oui, on peut dire ça comme ça, c'était du gros hacking parfaitement maîtrisé.
Ok, si on avance un peu, est-ce que vous vous rappelez de son premier gros coup, celui qui l'a fait décoller ?
Oui. C'était un post un peu ridicule. Et qui disait en substance quelque chose comme « Je ne dis jamais bonjour quand je fais du business, les vrais leaders vont toujours droit au but », enfin quelque chose comme ça, de cet acabit, avec un selfie d'elle plutôt joli. On aurait dit une photo prise chez le photographe d'ailleurs, hein, en noir et blanc, elle avait l'air très sérieux, avec un tagueur de souvenirs, etc. Et le post avait fait plusieurs milliers de likes, généré des centaines de commentaires, forcément c'était la folie. C'était la folie. Et dans le post suivant, d'ailleurs, un peu cocasse, elle avait posté une impression d'écran de sa courbe d'abonnés qui avait fait un bond. Et en substance, elle remerciait tous les rageux, entre guillemets, de lui avoir donné autant de visibilité. Après ça, de souvenir, je crois qu'elle n'a enchaîné quasiment que des succès, hein, en termes de portée.
Si je comprends bien, vous avez analysé beaucoup de ces posts. Est-ce qu'ils avaient un intérêt quelconque, au-delà de la polémique ?
Alors, je ne suis pas là pour juger ce genre de choses. Je ne suis pas là pour ça, déontologie journalistique, on va dire ça comme ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, ils étaient très auto-centrés, authentiques, diraient certains. Mais alors, avant la création de son agence, il y a eu une petite bascule. Elle avait commencé à mettre en avant les résultats qu'elle obtenait pour des clients qu'elle avait, a priori, hein, ces clients-là. Il faut avouer quand même, hein, que c'est toujours plus facile d'obtenir des résultats pour des clients quand on va commenter leur post avec 20 000 ou 30 000 abonnés. Hein. Donc je pense qu'il y avait peut-être une petite tricherie de sa part.
Ok, vous pensez qu'elle mettait son réseau, on va dire ça comme ça, hein, ses abonnés LinkedIn, au service de ses clients?
Alors oui, tricherie de sa part, je reviens sur ce que je disais, mais en réalité, elle ne s'en cachait pas vraiment. Elle ne s'en cachait pas vraiment de ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un post où elle expliquait clairement cette stratégie. Elle avait compris vraiment qu'elle avait de l'influence et que cette influence était monétisable, hein, tout simplement.
Alors, j'entends ce que vous dites, hein, mais moi, personnellement, je trouve ça fou qu'une gamine de 13 ans ait adopté aussi rapidement et aussi instinctivement, en fait, hein, les nouveaux codes de la plateforme. Franchement, j'ai du mal à croire qu'elle ait développé ça toute seule.
C'est la question que je me suis posée aussi. Et lorsque je l'interviewais, j'ai découvert qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le prétendait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte de cette interview ?
Alors, après avoir eu l'aval de mon ex-chef, hein, j'ai entamé l'écriture de mon papier sur Lauren. Je me suis dit que ce serait forcément plus intéressant si je parvenais à l'avoir en interview. Je l'ai donc tout bêtement écrit sur LinkedIn. Alors, je ne m'attendais pas forcément à grand-chose, mais elle m'a répondu rapidement quand même. Enfin, officiellement, c'était elle qui gérait ses messages. Mais dès nos premiers échanges, je dois avouer que j'ai eu un doute.
C'est-à-dire ?
Eh bien, sur la manière principalement dont elle répondait. Ses messages étaient un peu trop... Je ne sais pas trop comment dire ça. Proprement rédigés, peut-être ? Il n'y avait pas une faute. Il n'y avait pas une seule hésitation. C'était toujours parfaitement aligné, calibré avec son positionnement et ce qu'elle paraissait être en public sur LinkedIn. Alors bon, à 13 ans, on va dire que c'est possible, hein, bien sûr, ça relève du domaine du plausible. Mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai insisté pour faire un appel vidéo. Là-dessus, elle a mis du temps à accepter.
Et qu'est-ce que ça a donné ?
Eh bien, l'appel démarre. Je m'attendais à une ado surexcitée, je dois dire, à quelqu'un qui allait parler avec une énergie débordante. Mais non, pas vraiment. Elle était assez calme, très posée. Elle répondait à mes questions, mais toujours avec des phrases bien construites, comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait déjà dit des dizaines de fois. Ce qui n'était, on ne va pas se mentir, ce qui n'était peut-être pas impossible, puisque la presse australienne lui avait déjà consacré des articles.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez senti une forme de contrôle ?
Peut-être, oui, peut-être un peu. En tout cas, c'était comme parler à une adulte en représentation, ça c'était certain. Elle savait exactement quoi dire et quoi ne pas dire. Je lui ai demandé comment elle avait eu l'idée de Next Gen. Elle m'a répondu avec un discours ultra calibré sur l'avenir du personal branding et la nécessité d'humaniser les CEO sur LinkedIn. À 13 ans, ça reste étonnant. C'est étonnant.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais 13 ans, ma priorité, c'était plutôt de savoir si j'allais arriver à battre la Ligue Pokémon.
Oui. Ça m'a fait tiquer. J'ai tenté de la faire dévier, justement, et de la pousser sur un terrain plus naturel, mais c'était compliqué. Je lui ai par exemple demandé si elle s'occupait vraiment seule de la rédaction de ses postes, ou si elle avait des outils ou des personnes pour l'aider. Et là, j'ai senti un flottement. Je me souviens très bien que ses yeux ont bougé, juste une fraction de seconde, hein, c'était rien, mais comme si elle cherchait la bonne réponse. Puis elle a fini par me répondre « Je m'inspire beaucoup des conversations que j'ai eues avec mes mentors », quelque chose comme ça. Sauf que, à ce moment-là, elle n'avait jamais mentionné de mentor. Elle n'avait jamais parlé de mentor. Officiellement, c'est tel qu'elle se présentait, c'était une autodidacte.
Donc en fait, elle venait tout simplement d'admettre qu'il y avait des gens derrière elle.
Alors non, pas vraiment. Elle a tout de suite minimisé derrière. Elle a dit qu'elle échangeait, elle a insisté sur ce mot, échanger, avec des entrepreneurs expérimentés. Et également, elle a ajouté qu'elle prenait des conseils auprès d'eux. Mais je n'ai pas vraiment pu aller plus loin sur cette question avec elle.
Est-ce que vous pensez que Lorraine était en fait... j'ai pas trop le mot là. Enfin, ça va être horrible ce que je vais dire, hein, mais bah, tant pis. Est-ce que vous pensez qu'elle était une sorte de vitrine, de produit lancé par des entrepreneurs qui l'ont coaché en coulisses?
Oui, c'est une possibilité. Peut-être qu'elle n'était pas seule aux commandes, oui. Vu son jeune âge, il est probable que des personnes l'aient aidé à se construire sur LinkedIn et à maximiser son impact, pardon. Oui, c'est possible. Peut-être même qu'ils écrivaient pour elle.
Pourquoi ces gens auraient fait ça ?
Alors, je suppose qu'il y a plusieurs explications possibles. La plus évidente, je dirais qu'elle est purement stratégique. Vous l'avez dit vous-même, Lorraine Hurst, c'était un produit marketing en soi. Son âge, c'est un argument marketing. Une adolescente qui expose sur LinkedIn, qui conseille des CEO, c'est un cas unique, c'est une anomalie. Elle attire l'attention forcément derrière. Si un entrepreneur lambda applique exactement les mêmes techniques qu'elle, vous pensez qu'il aurait le même effet ? Ben, je ne pense pas. Mais on prend une gamine qui révolutionne, entre guillemets, le personal branding. Ben là, ça devient viral.
Donc, on a potentiellement des personnes qui auraient créé une success story artificielle pour faire quoi ensuite ? Utiliser Lorraine pour vendre leur service ?
Oui, sans doute. On se retrouve ici en présence d'un phénomène, hein, au sens strict du terme, d'une adolescente qui a conquis LinkedIn en quelques mois et qui génère vraisemblablement, en tout cas c'est ce qu'elle présente, beaucoup de chiffre d'affaires via son activité. Donc il est possible, que des personnes, des gens aient voulu en profiter au maximum, oui.
Ok, mais je réfléchis en même temps. Si c'était juste ça, j'imagine que ces personnes auraient continué à capitaliser sur elle quoi qu'il arrive. Or là, c'est l'inverse. Elle a disparu et on n'a plus entendu parler d'elle. Il y a un truc à mon sens qui colle pas.
Oui, je ne sais pas. Alors j'avoue que j'ai plus du tout suivi l'affaire après mon article, hein, la vie, d'autres dossiers à traiter, d'autres considérations. Mais oui, j'imagine qu'il y a eu un problème quelconque qui fait que Lorraine a dû disparaître, d'une manière ou d'une autre. Hein. On ne disparaît pas comme ça, à ce point-là. Et il est vrai que, oui, si on y réfléchit, il est probable qu'elle ait reçu de l'aide à ce sujet.
Après cette discussion, j'ai refermé mon carnet. Charlotte m'avait livré tout ce qu'elle savait, mais j'avais une impression étrange qui persistait. Malgré tous les nouveaux éléments que je venais d'avoir, je n'avais en fait toujours qu'un bout du puzzle. D'ailleurs, un détail intéressant au terme de notre discussion, Charlotte m'a bien confirmé que l'article sur Lorraine n'était plus en ligne sur les Échos et que ce n'était pas de son fait. Pour rappel, quand un article est dépublié, c'est souvent pour des raisons précises. Problème légal, plainte d'un tiers, décision éditoriale, etc. Mais là, il n'y avait aucune explication officielle. Charlotte elle-même, elle n'avait pas de réponse. Elle m'a simplement dit que c'était rare, que ça arrivait parfois, notamment quand un sujet devenait trop sensible. Mais là, trop sensible pour qui ? Bon, avant qu'on se perde dans des conjectures un peu hasardeuses, je vous propose de récapituler ce qu'on sait, rien que les faits. Déjà, Charlotte a confirmé ce que je soupçonnais, Lauren Hurst n'était pas une influenceuse talentueuse, mais probablement une gamine influencée ou manipulée, volontairement ou non, hein, par des personnes tierces. Je dis pas que c'est impossible pour une ado de 13 ans de percer toute seule sur LinkedIn, je dis juste qu'on a un certain nombre d'éléments troublants qui font plutôt pencher la balance vers la seconde option. D'abord, elle a un branding ultra calibré. Un profil ultra léché avec une vraie direction artistique. Une bio parfaitement rédigée, toujours selon Charlotte. Ensuite, on peut vraisemblablement observer une maîtrise avancée de l'outil LinkedIn. Elle utilisait des fuseaux horaires un peu stratégiques hein, pour maximiser la portée de ses posts. Elle rédigeait des posts clivants pour générer de l'engagement. Elle avait recours à du clickbait et des selfies bien choisis pour maximiser cet engagement. Et enfin, elle était très active sur LinkedIn, notamment pour commenter chez les autres, afin d'augmenter mécaniquement sa visibilité. Enfin, elle avait une vraie audience derrière elle, et elle a réussi à toucher des dirigeants sérieux. Tout ça, mis ensemble, renforce, je pense, l'hypothèse dont je vous parlais au départ. Lauren n'a pas percé par hasard. Son succès a été construit, optimisé, voire orchestré. Je vous propose d'explorer davantage cette piste en notant les incohérences qui émergent. Donc, premièrement, on peut soupçonner un contrôle un peu trop parfait de son image. Je vous rappelle, lors de l'interview, Charlotte ne retrouve pas le ton naturel d'une adolescente. Lauren n'improvise pas, elle semble réciter un discours préparé. On a ensuite une gestion du temps irréaliste, faut le dire. Dixit Charlotte, son activité sur LinkedIn était super intense. Entre les commentaires, ses publications et ses interactions, et son prétendu business, hein, c'est difficile d'imaginer qu'elle suivait une scolarité normale, à moins d'être branchée à son portable en salle de classe à 24. Et puis, qui étaient ses mentors ? Elle ne les mentionne qu'après un moment d'hésitation, ce qui peut suggérer qu'elle minimise leur implication. Encore une fois, il est plausible que Lauren n'était pas totalement aux commandes, elle bénéficiait vraisemblablement de conseils et ou de soutien. Alors, est-ce qu'elle était un produit marketing monté de toutes pièces ? C'est vrai que son âge, c'est un argument de vente puissant. Une adolescente qui conseille des CIO, encore une fois, comme l'a fait remarquer Charlotte, ça attire forcément l'attention. Et ensuite, sa propre success story validait l'efficacité de ses méthodes ou celle de ses mentors, c'est pas le problème. Donc à partir de là, on peut imaginer que ça permettait de vendre derrière des formations ou du consulting. Donc, oui, il est probable qu'elle ait été coachée pour donner l'illusion qu'elle était seule aux commandes, mais qu'elle était en réalité épaulée par des professionnels du web marketing. Pour l'instant, je rappelle que c'est simplement une hypothèse. On n'a pas encore d'éléments qui le prouvent de manière tangible. Mais quand même, on a une piste intéressante, à mon sens. Il nous reste un gros élément clé à analyser, l'agence de Lauren, NextGen. Officiellement, c'est la preuve ultime que Lauren Hurst était bien une entrepreneuse aguerrie, une adolescente prodige qui, en quelques mois, avait attiré des dizaines de clients, des entrepreneurs, des consultants, des dirigeants et généré des centaines de milliers de dollars grâce à ses prestations. Sauf que là, désolé, mais on parle du mythe. Moi, je veux des faits. Alors du coup, j'ai essayé de retrouver des traces tangibles de NextGen, une adresse, hein, des archives, pourquoi pas des clients aussi qui ont réellement travaillé avec elle. Et c'est là que quelque chose a attiré mon attention. J'ai pu retrouver une adresse professionnelle. Level 14, 309 Kent Street, à Sydney. J'ai regardé sur Google Maps, c'est une tour de bureau en plein centre-ville. Jusque-là, pas grand-chose d'anormal. Sauf que après quelques recherches complémentaires, j'ai découvert un problème. Cet étage du bâtiment n'était pas occupé par NextGen, mais par une autre société de domiciliation commerciale. Autrement dit, L'adresse n'était pas celle d'un bureau où travaillait Lorraine, mais un simple service de boîte aux lettres pour entreprise. Alors, ok, pas de quoi crier au scandale, effectivement, parce que beaucoup d'entreprises utilisent ce genre de service. Mais ce n'était que la première anomalie. J'ai ensuite cherché une trace légale de l'existence de NextGen. Si l'agence avait bien été créée en Australie, elle devait forcément apparaître dans l'ASIC, l'ASIC, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, c'est le registre des entreprises australiennes. Et effectivement, j'ai trouvé une entreprise nommée NextGen. Elle était bien enregistrée, mais il y avait un détail troublant. Lorraine Hurst n'y figurait pas comme fondatrice, ni comme directrice. À la place, j'avais deux noms, Gavin Matthews et Sophia Ling. Après quelques recherches complémentaires, j'ai découvert que c'était deux entrepreneurs basés à Melbourne et dont les profils LinkedIn indiquaient qu'ils travaillaient dans la gestion de contenu et la stratégie digitale. Qui étaient-ils et surtout, pourquoi Lorraine n'apparaissait-elle pas officiellement dans les registres? Une question qu'on va laisser en suspens pour le moment. Si NextGen avait vraiment existé en tant qu'agence opérationnelle, en tout cas, elle aurait dû laisser des traces, même après la vague de suppression qui a eu lieu, c'est pas le problème. Une fois encore, merci à Flying Solo, puisque j'ai pu retrouver une nouvelle mention, un peu par hasard, hein, dans un autre sujet de discussion qui datait, lui, de juillet 2022. Et c'était un sujet qui était consacré au Ghostwriter. Pour expliquer simplement le contexte, un membre du forum cherchait quelqu'un pour rédiger ses posts LinkedIn et demandait des recos. Et parmi les réponses, un utilisateur a mentionné Lorraine Hurst et son agence NextGen. Il y en a deux autres qui ont réagi et qui ont partagé leur expérience avec elle. Là, ça devient intéressant. On a un consultant en leadership qui était basé à Brisbane et qui affirmait avoir acheté un audit LinkedIn pour 400$, mais qui disait avoir été déçu par le manque de conseils personnalisés, donc a priori il ne recommandait pas vraiment. Et on a un entrepreneur qui lui expliquait que NextGen lui avait proposé une refonte de son profil LinkedIn, mais qu'il avait surtout interagi avec un autre membre de l'équipe, hein, et il n'avait jamais eu Lorraine en direct. En clair, NextGen a bien existé, mais il est probable que son activité était beaucoup plus modeste que ce que Lorraine annonçait. Il y avait quelques vrais clients, mais rien qui justifie vraiment les chiffres impressionnants qu'on lui attribuait derrière. Alors, d'où venaient ces fameuses centaines de milliers de dollars de revenus? Qui gérait vraiment NextGen si Lorraine n'était pas officiellement à sa tête? Et pourquoi cette agence avait-elle disparu après Lorraine? Dans le prochain épisode, je vais m'attaquer à une question qui dérange. À quoi servait vraiment NextGen? Parce qu'en continuant mes recherches, j'ai trouvé une autre anomalie. Certaines des entreprises qui auraient prétendument travaillé avec NextGen n'existaient tout simplement pas. Donc, qui a réellement financé NextGen et qui était derrière ces transactions? Et enfin, dernière question, dernière supposition. Et si l'agence n'avait jamais été créée pour être rentable, mais pour servir à quelque chose de beaucoup plus trouble? Si cet épisode vous a plu et que, comme moi, vous voulez comprendre comment une adolescente de 13 ans a pu conquérir LinkedIn, n'hésitez pas à partager et à liker le podcast et rendez-vous dans l'épisode 3. On décortiquera ensemble le travail prétendument accompli par Lorraine avec son agence NextGen et le premier scandale qu'elle a eu à affronter. Merci également aux sponsors de ce podcast, Astram Studio. Si vous êtes une entreprise B2B et que vous avez besoin de contenu à impact qui tonne et qui détonne parmi vos concurrents, le tout sous un format d'abonnement illimité, n'hésitez pas à faire appel à eux, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite du mystère Lorraine Hurst.